Rayon BD, Stop Ibarikun, un manga pop, transgenre et déjanté.
いきなり出てくるなって。
何ぶつくさ言ってたのさ。
え、いや別に何も。
つぐみ姉さんがどうしたって。やけに色っぽいセクシ
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture. Nous partons aujourd'hui pour le Japon. Plutôt, c'est le Japon qui vient à nous, puisque nous allons vous diffuser un entretien enregistré au dernier festival d'Angoulême avec un auteur qui y était invité, le mangaka Hisashi Eguchi. La maison d'édition du Lézard Noir a entamé la publication en français de l'œuvre phare d'Eguchi, une série qui fut publiée dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump entre 1981 et 1983, avant d'être adapté en dessin animé, qui s'appelle Stop Ibarikun. Deux tomes sont déjà parus, le troisième et dernier devrait sortir cette année. En deuxième partie d'émission, nous nous entretiendrons avec le fondateur de cette maison du Lézard Noir, Stéphane Duval. Stop Ibarikun, c'est l'histoire d'un adolescent, Kozaku, qui, à la mort de sa mère, conformément aux dernières volontés de celle-ci, quitte sa province pour aller s'installer à Tokyo chez Monsieur Ozora. Monsieur Ozora a quatre filles charmantes, et la plus séduisante de toutes, qui a le même âge que Kozaku, s'appelle Hibari. Tout ceci semble planter le décor d'une belle bluette romantique, mais deux éléments viennent perturber un peu le cours des choses. Le premier, c'est que Monsieur Ozora est un chef des Yakuza, la mafia japonaise. Le second, c'est qu'Hibari, qui ne laisse pas Kozaku insensible, est un garçon. Vous en savez assez maintenant pour écouter cet auteur, Hisashi Eguchi. La traduction est assurée par Aurélien Estagé. Hisashi Eguchi, je voudrais d'abord vous demander qu'est-ce que ça fait d'être invité aujourd'hui au Festival d'Angoulême pour une œuvre qui a déjà 38 ans.
En fait, parmi mes amis, mes connaissances, il y a un grand nombre de confrères mangaka qui ont été invités déjà à Angoulême, comme Monsieur Katsuhiro Otomo ou bien Naoki Urasawa. Et je trouvais quand même bizarre que je sois le seul à pas venir à Angoulême. C'est vrai que moi, je m'illustre dans un genre qui celui de la comédie, qui fonctionne sur des gags assez référencés, qui parle d'une culture un peu passée, celle des années 80, culture japonaise en plus. Donc je savais bien aussi qu'il y avait un problème de compréhension. Et malgré tout, je suis très honoré que je sois invité cette année au Festival d'Angoulême.
Cela est aussi dû au fait que votre œuvre Stop Ibarikun a été traduite en français. Comment est-ce que cela s'est passé? Est-ce que vous avez été surpris quand Stéphane Duval du Lézard Noir est venu vous demander, si c'est comme ça que ça s'est fait, de traduire cette œuvre très célèbre au Japon, mais déjà ancienne?
Je me suis dit qu'ils avaient l'œil pour discerner, repérer la qualité, mais en même temps je me disais aussi que c'était un peu tard. Et je me suis également dit que c'était une maison d'édition très, très brave, très courageuse de sortir une telle série.
Vous connaissez peut-être, Monsieur Eguchi, le catalogue de cette maison d'édition, justement, le Lézard Noir? Finalement, Stop Ibarikun est un peu original, est une sorte de nouveau champ qui est ouvert dans le catalogue du Lézard Noir.
Oui, donc à nouveau, je salue le courage de cette maison d'édition. Je suis bien conscient que c'est pas forcément un titre qui se vendra par millions d'exemplaires en France. Et je salue vraiment la passion du Lézard Noir de prendre ce risque. Et je trouve en fait cette attitude, cet engagement extrêmement fort et extrêmement presque élégant en fait de faire fi finalement du risque financier. J'étais surpris parce qu'en fait, j'ai reçu trois offres d'éditeurs français au même moment. Je me suis demandé quelle était la raison de cet intérêt simultané. Dans le lot, en fait, de ces trois maisons d'édition, c'est le Lézard Noir qui m'a semblé le plus passionné, le plus impliqué.
Comment vous est venue cette idée il y a donc 38 ans? Vous étiez un tout jeune auteur à l'époque. Comment vous est venue cette idée d'écrire sur ce sujet du travestissement, de la barrière entre les genres? Est-ce que c'était un sujet qui vous touchait? Est-ce que sous la comédie, c'était un engagement de votre part?
Non, en fait, j'ai choisi cet élément, le travestissement, plutôt comme un élément qui participait au ressort comique de cette comédie romantique que je voulais écrire. La question transgenre, finalement, au Japon à l'époque, appartenait à, comment dire, un milieu très fermé qui vivait plutôt caché. En fait, c'était pas du tout une question qui était abordée dans le débat public. Comme aujourd'hui, c'était un monde presque underground, donc je n'envisageais pas cette problématique de cette manière. C'est une question qui est devenue très délicate à aborder. Je pense que si je devais écrire la série aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire de la même manière qu'il y a 38 ans. On me ferait sans doute des remarques, des reproches, me dire que je ne pourrais pas dire telle ou telle chose ou montrer telle ou telle chose. À l'époque, j'avais une certaine liberté de ton. Il y avait, comme c'était un débat qui n'avait pas lieu, du coup, j'avais ce champ assez libre.
Dans Stop Ibarikun, vous vous mettez souvent en scène, vous étiez tout jeune à l'époque, vous avez un petit personnage qui intervient dans les pages, de plus en plus d'ailleurs au fur et à mesure de la lecture. J'ai pas encore lu le tome 3 qui n'est pas sorti en français. C'est devenu quelque chose d'assez commun dans les mangas après. Est-ce que c'était fréquent au début des années 80 que l'auteur vienne apporter une distance comme ça entre les cases au milieu de l'histoire ?
Non, je ne suis pas à l'origine de cette idée. En fait, c'est quelque chose qui date de l'époque de Osamu Tezuka. Et on peut aussi l'observer dans le travail de Hideo Azuma. Donc voilà, je ne suis pas du tout l'inventeur. En revanche, je crois que je suis le premier à avoir dénoncé ou en tout cas rendu compte du fait que le rythme de travail, le rythme de parution, la prépublication comme on l'appelle au Japon, qui consiste pour le magazine pour lequel je travaillais à rendre un épisode par semaine, donc 13 pages, est tout simplement impossible à tenir dans la durée. C'est quelque chose d'inhumain et je pense que je suis la première personne à m'en être... à l'avoir dénoncé dans mes mangas.
Donc ce magazine, c'était Jump, et en effet, on voit la vie de l'atelier, qui était un tout petit atelier à l'époque, tel que vous le représentez. C'était vous et un assistant, et il y a cette figure de l'éditeur, du rédacteur en chef du journal. Comment est-ce que c'était pris à l'époque par le rédacteur en chef ?
En fait, mon responsable éditorial, la personne qui travaillait étroitement avec moi, a pris ça vraiment à la rigolade, ça l'a beaucoup amusé. En revanche, le rédacteur en chef de Shonen Jump était lui quelqu'un de très strict et très à cheval sur ce principe de se tenir au rythme d'un chapitre par semaine. Et en fait, il m'en a vraiment voulu longtemps, il m'en a tenu rigueur pendant très longtemps, à tel point qu'un jour, il a publié une espèce d'autobiographie dans laquelle il racontait sa vie d'éditeur. Et en fait, il parle de moi en disant qu'il reconnaissait mon talent, mais qu'en tant que personne, en tant qu'être humain, je ne valais pas grand-chose.
Aujourd'hui, Hisashi Eguchi, sur quoi est-ce que vous travaillez ? Est-ce que... dans les prochaines années, on va pouvoir lire des nouvelles œuvres de vous, peut-être traduites en français.
Aujourd'hui, en fait, je ne peux pas écrire de manga. Je ne reçois que des commandes pour des illustrations. En fait, il se trouve que tous les responsables éditoriaux savent que s'ils veulent travailler avec moi, ils vont faire face à beaucoup de difficultés. Donc personne n'a vraiment le courage de me solliciter pour écrire une nouvelle histoire, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire.
Les difficultés de quel ordre ?
En
fait, je ne suis pas capable de rendre mes planches avant la date limite prévue. Donc, je déborde toujours, ce qui oblige les responsables éditoriaux à demander à l'imprimeur des délais supplémentaires, etc. Ça se fait toujours au cordeau. Donc, c'est de ce point de vue-là que les gens sont un peu effrayés par la perspective de travailler avec moi.
Isashi Eguchi, une dernière question sur votre connaissance de la bande dessinée européenne, franco-belge ou européenne en général. Est-ce qu'il y a un auteur ou deux que vous avez connu depuis longtemps, dont vous avez aimé le travail, qui vous a peut-être influencé ?
Mebius wa mou fudou no boku ni totte nihon de iuto Tezuka Osamu san mitai na kanji desu ne.
Pour moi, il y a vraiment une figure à part qui est celle de Moebius. C'est pour moi l'équivalent de Tezuka au Japon, une figure vraiment tutélaire qui plane sur l'ensemble de la bande dessinée franco-belge. Pour moi, sa qualité principale, c'est vraiment que jusqu'à sa mort, en fait, son dessin n'a vraiment pas baissé en qualité. Il était toujours frais, toujours en perpétuelle évolution, et ça, j'aimerais vraiment pouvoir m'inscrire dans ce genre de démarche. J'aime aussi Hergé et les aventures de Tintin et également d'autres artistes qui ont été influencés par lui, Flock et Lustal.
Merci beaucoup, Isashi Eguchi.
Merci beaucoup.
Et merci à vous, Aurélien Estagé, qui avait assuré la traduction. Je profite que vous soyez là, puisque vous êtes aussi le traducteur d'Isashi Eguchi pour Stop Ibarikun, qui paraît donc au Lézard Noir. Et vous avez d'ailleurs, pour cette traduction, reçu cette année à Angoulême le prix Konishi du meilleur traducteur manga, donc félicitations. Une question quand même sur la traduction d'Eguchi et sur cette œuvre. C'est une œuvre comique, avec énormément de jeux de mots, avec énormément de références. Quand on la lit en français, on a beaucoup de blagues qui évoquent des choses françaises. On imagine que c'est toute une gymnastique pour adapter des blagues qui seraient incompréhensibles pour nous, des comptines, des noms propres de stars de cinéma. Est-ce que c'est difficile de traduire Eguchi ?
C'est difficile de manière générale de traduire des œuvres comiques parce que voilà, tout simplement, il faut faire rire les gens. Souvent, les mangakas ont, comment dire, un peu l'angoisse que leur message, leurs idées ne passent pas, donc ils approfondissent, le texte est parfois un peu long, tandis que il me semble que la comédie doit un peu fuser, le rythme doit être assez soutenu. Donc il faut un peu jongler entre ces deux directions. Et puis en ce qui concerne l'adaptation, c'était difficile dans le sens où il fallait adapter, mais aussi essayer de trouver des références comme pas trop anachroniques. Je pouvais pas proposer des références à des artistes qui travaillent aujourd'hui. Donc, mais en même temps, quand on fait référence à des choses trop passées, j'avais peur que les jeunes lecteurs français ne connaissent pas. Donc bon, ça c'était un petit souci. Mais sinon, c'est très agréable de traduire Monsieur Eguchi, notamment de sentir toute l'affection qu'il a pour son personnage principal, qui est vraiment une figure très très libre et qui j'aime pas du tout le mot, mais qui est très inspirante, je trouve, qui vit selon sa fantaisie.
Ça, c'est le personnage d'Ibari, mais il y a l'autre personnage, Kosaku, qui est beaucoup plus gêné, qui ne se dépêtre pas de cet amour, de cette affection qu'il a pour Ibari. Quand on lit ça, on est frappé par la modernité du propos, cette nuance de sentiments avec des situations pas évidentes. Isashi Eguchi le disait, aujourd'hui, on ne pourrait pas vraiment refaire la même chose.
Oui, ce que Monsieur Eguchi disait un peu plus tôt, ça serait difficile aussi de raconter une histoire qui concernerait des personnages un peu plus âgés, parce que en fait là, les personnages de Stop Ibarikun vivent un peu dans une espèce de monde qui fonctionne en vase clos, c'est celui de l'école, de la famille, et il n'y a pas encore le regard de la société en fait. Et c'est pour ça que Ibari arrive à vivre de manière aussi libre et aussi finalement détachée des réalités. Là, si on voulait vraiment montrer un jeune adulte confronté au jugement, la série prendrait tout de suite un ton beaucoup moins léger, je pense.
Stéphane Duval, vous êtes le fondateur et le directeur de ces éditions du Lézard Noir. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et comment vous est venue l'envie de traduire et de publier en français Stop Ibarikoun, qui est une œuvre qui a déjà 38 ans pour les premiers épisodes, et comment ça s'inscrit ou ça élargit peut-être le champ de votre maison d'édition?
Moi, j'ai découvert le travail de Hisashi Eguchi assez tardivement, en fait, grâce à ses illustrations. Son style graphique actuellement est très très proche de celui de Minetaro Mochizuki, qui est un de mes auteurs phares dans mon catalogue, qui a fait Shisakobe. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des illustrations et de me dire, tiens, est-ce que c'est Mochizuki ou pas? Et en déroulant le fil d'Ariane, je suis tombé sur lui, sur l'adaptation du dessin animé Stop Ibari, que j'ai trouvé complètement dingue qu'on puisse faire un tel dessin animé dans les années 80 qui parlait déjà de transidentité pour les adolescents. Et je me suis dit, je veux l'avoir au catalogue, je veux ce bouquin au catalogue, parce qu'on parle de transidentité, mais c'est vrai que le Lézard Noir vient du nom du roman éponyme de Edogawa Rampo, du film de Fukasaku, qui est joué par Akihiro Miwa, qui est déjà un acteur travesti. Donc ça, je trouvais ça intéressant de traiter ce sujet, non pas avec des involtures, mais avec une certaine sorte de lâcher prise. Je ressentais qu'il y avait beaucoup d'humour. Et voilà, j'ai tout fait pour le contacter. Le problème, c'est que Monsieur Eguchi était un peu sorti des radars des éditeurs, puisque maintenant c'est un artiste indépendant, qui est surtout illustrateur plus que mangaka. Et il a fallu retrouver son contact. Et après, tout s'est déroulé assez vite. On a fait une offre, je pense qu'il connaissait pas mon catalogue, ça c'est évident, hein. Mais en voyant la filiation qu'il y avait avec des auteurs du catalogue comme Minetaro Mochizuki, qu'il a publié dans sa revue Comic U, ou Shinzo Keigo, je pense qu'il s'est trouvé en bonne compagnie.
Vous dites qu'il était sorti du radar des mangakas, enfin du travail d'édition de manga au Japon. Il nous a expliqué qu'il pouvait plus y rentrer parce qu'il avait des délais beaucoup trop longs. C'est surprenant en France d'imaginer que un auteur connu et reconnu soit encore si dépendant des éditeurs, au sens où le fait de ne pas tenir les délais puisse lui fermer les portes des maisons d'édition.
Oui, au Japon, si je comprends bien, c'est un pays de prépublication. Et les auteurs gagnent de l'argent sur la prépublication, plus que sur l'édition papier des mangas. Et les grandes revues sortent quasiment tous les 15 jours. Ça fait 300, 400 pages, ça tire à 100, 200, 300 000 exemplaires. Donc évidemment, si on loupe un numéro, ça impacte sur toute la chaîne qui va autour. Et les mangakas sont pilotés par des tanto, qui sont des éditeurs de section. Un tanto va avoir 2, 3, 4 auteurs dont il va suivre un peu le travail, lui indiquer ce qu'il doit faire, qui un peu comme des mères poules, quoi. Et Gucci en parle un peu dans Stop Ibarikoun, dans tout ce qui est dans la marge de son manga. Il se dessine lui-même comme le petit mangaka un peu loser, avec tout le temps son tanto qui est derrière, lui quasiment les taper dessus pour qu'il rende ses planches, mais qu'en fait il a pas envie de faire grand-chose. Et c'est tout à fait lui. Je pense qu'il a envie aussi de prendre du bon temps, de profiter de la vie, d'aller dans les bars. Il a pas envie d'être enfermé dans une salle avec le tanto qui est derrière, qui lui dit il me faut mes 15 planches pour la semaine prochaine, parce que voilà. On travaille aussi avec Abeyaro, par exemple. Ça fait des mois et des mois que je l'invite, l'auteur de La Cantine de Minuit, mais il a des mois pairs sur lesquels il doit rendre des histoires. Aujourd'hui, il voudrait beaucoup venir en France, mais c'est compliqué parce que il y a ce rendu. Pour eux, c'est une question d'honneur de faire ce rendu. Et moi, je me dis, il est suffisamment connu pour pouvoir dire, basta, tant pis, on sera pas dans le prochain. Mais c'est une telle machine derrière, c'est tellement incrusté et cristallisé dans leur relation que c'est quasiment impossible. Alors là, avec Abeyaro, on a peut-être une porte de sortie parce qu'il paraît qu'il aurait 3 histoires d'avance. Donc ça nous donnerait un peu de la marge.
Donc il sera peut-être là, c'est un de vos grands succès éditoriaux, La Cantine de Minuit.
Aujourd'hui, c'est le principal, ouais. C'est le gros succès avec Shisakobe, bien sûr.
Vous évoquez le style de Hisashi Eguchi aujourd'hui, son style d'illustrateur. Qu'est-ce qu'on peut dire du style qu'il avait il y a une petite quarantaine d'années quand il a commencé Stop Ibarikoun? Quand vous avez découvert, vous avez dit que vous avez découvert d'abord l'animé, le dessin animé, qu'on n'a pas eu en France au Club Dorothée. Peut-être que le sujet était un peu trop sulfureux. Quand vous avez découvert ces planches, ces pages de manga, comment est-ce qu'on peut qualifier son style?
Bah, je me suis dit qu'Ibari, elle était badass, et puis que voilà, son histoire devait être super. Et... Moi, je lis pas le japonais. Je parle pas japonais. Je lis pas le japonais. Je vais régulièrement au Japon, mais le ressenti, je me suis dit voilà, j'ai envie de publier cette histoire qui montre, je sais pas, une affirmation de soi, sans tabou. Et ce qui était intéressant aussi, c'est ce mélange graphique qui alterne à la fois le côté glamour, pop culture, très années 80. La musique est très présente aussi. Moi, je suis branché musique par tout ce qui est du post-punk à la new wave et autres. Donc, je reconnais beaucoup de choses dans cette BD. Et en même temps, il y a le côté gag manga avec des aspects un peu délirants. Et j'aime bien aussi quand la bande dessinée se prend pas complètement au sérieux. C'est un petit peu le cas dans Le Tigre des Neiges, où on a reçu le prix jeune adulte hier pour la série d'Akiko Higashimura, qui est à la fois une grande saga historique japonaise, mais qui est entrecoupée par des petites scénettes rigolotes où l'autrice se met en scène en tant que mangaka. Donc c'est marrant, c'est pas une mise en abîme, mais c'est cette incrustation de soi dans le manga.
Le Lézard Noir, c'est une maison que vous avez montée il y a quelques années. Vous veniez plutôt de l'univers musical. C'est grâce à des pochettes de disques que vous êtes intéressé à certains illustrateurs japonais, et vous avez commencé avec des auteurs et des choses, des publications très underground. Il y a par exemple un auteur qui est emblématique de votre catalogue, c'est Maruo, qui est un auteur phare du genre Eroguro. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est ce genre, et pourquoi est-ce que c'est par cet auteur, Maruo, par exemple, que vous avez commencé?
Alors moi, j'étais fasciné par certaines pochettes de disques que j'ai vues de Maruo, qu'il avait fait pour John Zorn, entre autres, sur son label Zadig, par des groupes de Japanoise qui prenaient des photos souvent de bondage japonais. Le groupe Merzbow l'utilisait beaucoup. Il y avait le travail de Romain Slocombe, qui était un illustrateur français... et écrivain maintenant, plus écrivain qu'illustrateur de nos jours, mais dont j'appréciais le travail. Et ma porte d'entrée sur le Japon a été celle-ci, c'est-à-dire le Japon décalé, vraiment de marge, le Japon intime. Donc la création du Lézard Noir s'est faite un peu par hasard, s'est faite après la rencontre de Maruo, que j'ai rencontré avec son galeriste qui m'avait emmené chez lui. Et en sortant de chez lui, je me suis dit, bah tiens, il faudrait que je l'édite. Et le nom de Lézard Noir est venu spontanément, j'avais pas de plan de carrière manga, j'avais pas de... Et j'ai attendu 6 mois pour lui reproposer de travailler avec lui. Et donc voilà, j'ai pris Le Lézard Noir. Pourquoi ? Parce que c'était le nom d'un roman d'Edogawa Rampo, qui avait ce dont on parlait tout à l'heure, les liens avec Akihiro Miwa, avec Mishima, avec ce côté décadent de la fin des années 60. Ça a invoqué aussi les grands affichistes japonais comme Tadanori Yoko, le théâtre et le cinéma de Tsuji Terayama, un peu révolutionnaire et poétique. Donc ça, c'était les débuts du Lézard Noir. Et petit à petit, effectivement, j'ai déroulé la plot de la bande dessinée japonaise, puisque j'ai édité, en plus de Maruo, des auteurs comme Makoto Aida ou Akino Kondo, qui étaient des artistes contemporains qui sont à la fois des vidéastes, des peintres, et qui avaient quelquefois fait des mangas. Donc mon entrée par le manga est passée par ici. Et le catalogue s'est construit à partir de là, en connaissant un peu mieux le Japon, en y allant régulièrement et en ayant envie de montrer quelque chose qui était loin du cliché, loin du Japon rêvé, et d'essayer de retranscrire le Japon réel que je pouvais moi imaginer, et de rentrer dans les arrières-cuisines. Donc la cantine de minuit fait partie de ces livres où on voit des humains qui parlent, on sonde un peu plus leur intérieur, de la même manière que dans Le Vagabond de Tokyo, qui a été déjà un premier... une première rupture dans le catalogue du Lézard Noir. On a aussi commencé à faire une série qui était un peu scato, rigolo, mais à la fois tragique, et dont on a décrit l'auteur un peu comme le Bukowski du manga, aux accents un peu welbeckiens. Et donc il y a eu cette envie de ne pas se prendre au sérieux, d'être aussi sur une ligne claire, et d'être une plongée un peu ethnologique dans le Japon contemporain. Et ensuite, j'ai travaillé longtemps pour des architectes, puisque j'ai été directeur des maisons d'architecture de Poitou-Charentes. Et ça, c'est une autre des grandes influences de mon catalogue. J'ai fait des livres d'archi japonaises. Et le choix des mangas sont aussi passés par une appétence particulière pour l'urbanisme, la rue. Et beaucoup de mangas ont été choisis pour ces plans, des fois cinématographiques, de rue.
Et pour l'architecture, par exemple, Shizakobe, c'est des architectes, ça se passe dans ce milieu-là.
Oui, puisqu'on invoque aussi dedans Frank Lloyd Wright, Zaha Hadid, qui sont deux architectes que j'apprécie particulièrement. Mais j'avais pas vraiment capté ça, puisque je l'avais pas lu au début. Ça s'est fait comme ça. Enfin, ça a conforté mon... Ça m'a conforté dans mon choix d'avoir choisi Shizakobe.
Merci beaucoup, Stéphane Duval.
Merci à vous.
Le rayon BD s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était comme chaque semaine préparée par Pascaline Bonnet, aujourd'hui réalisée par Assia Khalid, avec à la prise de son Fred Kérou et Jean-Guilain Meige. Vous pouvez bien sûr réécouter et télécharger cette émission et toutes les précédentes sur le site de France Culture, franceculture.fr. Ce rayon BD était le dernier de l'année, puisque la semaine prochaine, France Culture prépare un week-end spécial Albert Camus. Nous nous retrouvons donc l'année prochaine, mais en attendant, restez bien sûr à l'écoute de France Culture. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau pour le magazine de l'environnement de Cause à Effet.